Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Mélina de Courcy. Alors nous repartons aujourd'hui dans ce si joli musée Montmartre, 12 rue Cortot, dans le 18e arrondissement de Paris, avec une exposition temporaire qui s'achève bientôt le 11 février. C'est donc l'urgence de cette semaine. Et Lélaï Jaboy,
bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef art graphique et peinture du musée d'Orsay et l'une des deux commissaires de cette exposition du centenaire. Je rappelle que Stan Lane est mort en 1923 et que l'exposition s'achève donc, je le répète, le 11 février. Alors le musée de Montmartre consacre cette exposition. Théophile Alexandre Stan Lane est né en 1859, il meurt en 1923. C'est un artiste emblématique de Montmartre à la fin du 19e siècle. Et l'exposition rend hommage à cet artiste inclassable, protéiforme, assez bordélique, il faut le dire, qui a été dessinateur, graveur, peintre, sculpteur, et qui n'appartient à aucune seule école, enfin peut-être celle de la liberté. Il est né, je vous l'ai dit, en 58, et c'est un homme qui aime les chats. Alors peut-on résumer une vie d'art à des combat de ces deux propositions, c'est-à-dire l'anarchie et les chats. Pourquoi pas, je viens d'évoquer les chats, c'est un peu le double du peintre lui-même. Leïla ?
Oui, effectivement. D'ailleurs, le spécialiste de l'artiste Philippe Quesnel, d'ailleurs, avait écrit un ouvrage où il comparait les pratiques artistiques de l'artiste au chat, c'est-à-dire la lithographie, c'est le côté pâte de velours, et puis l'estampe, la gravure, c'est plus le côté coup de griffe. Donc rien que dans son art, l'artiste a ces deux aspects du chat. C'est un artiste très ambivalent d'ailleurs, qui était à la fois poète très joyeux, très fêtard, et en même temps profondément mélancolique, donc insaisissable comme le chat. Et puis surtout,
un côté bipolaire un peu, j'ai l'impression, non?
Ou un peu, puis le surtout la liberté, évidemment.
Évidemment. C'est avant tout. Et alors, il faut rappeler que c'est lui qui est l'auteur de la fameuse affiche du chat noir.
Voilà, c'est un peu le paradoxe de Stan Lane. C'est que c'est un artiste encore relativement méconnu. Et pourtant, l'affiche du chat noir, elle est partout, sur les quais, en produits dérivés, comme la Joconde, comme la chambre de Van Gogh. Enfin, c'est vraiment le paradoxe. C'est une des images les plus célèbres du Paris fin de siècle. En fait,
mais oui,
créé une icône.
Alors, le fil conducteur de l'exposition, c'est l'engagement, l'artiste engagé. C'est bien un artiste engagé ?
Oui, alors c'est un artiste qui disait qu'il n'était d'aucune chapelle, donc voilà, il n'avait pas de carte.
Oui, c'est ça, il va dans tous les sens.
Voilà, hein. Il voulait vraiment garder sa liberté. Encore une fois, c'est vraiment le maître mot, je crois, si on doit résumer Stan Lane à un mot, c'est la liberté. Et donc il était engagé, mais avant d'être engagé, il était surtout témoin, en fait. Et évidemment, quand on témoigne, ben, la réalité, elle est quand même beaucoup fondée sur l'injustice, la pauvreté, donc en témoignant...
Côté Zola, hein. Voilà. Il y a un peu un côté Zola, c'est-à-dire qu'il nous montre des miséreux et il insiste sur la misère. C'est-à-dire qu'on voit moins le visage que la poussière et le chagrin.
Alors, il a un côté Zola qu'il admirait énormément, mais en même temps, il a peut-être un peu plus de douceur que Zola. Enfin, il ne peut pas s'empêcher d'idéaliser en quelque sorte. Enfin, il a créé un type un petit peu de femme populaire. Des rues, de femmes modestes, la midinette, la trottin, on appelait aussi ces femmes.
La prostituée, ouais.
Mais elles sont toujours assez douces. Enfin, il y a un côté assez tendre toujours dans son travail.
Il aime les femmes.
Il est un peu moins incisif, peut-être, que Zola.
Mélina.
Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de lever le voile sur un visage inconnu qui a un nom réputé.
Ouais.
Et finalement d'entrer un peu dans la vie de cet artiste qui a une œuvre plus connue que lui, finalement, avec cette affiche du chat noir en particulier qui nous accueille.
Oui, mais vous connaissez pas le peintre? Moi, je connaissais pas le peintre.
Et c'est ça. Donc,
je connaissais le, j'allais dire le publicitaire,
oui,
parce que
c'est
parce que c'est l'affiche, mais je connaissais pas le peintre.
Et donc là, c'est tout à fait intéressant de voir que, comme vous disiez, il est protéiforme. Alors
ah,
ça, c'est très bien représenté dans l'exposition. Je dirais qu'il y a, enfin, moi, je vois 5 parties dans cette exposition. On est accueilli par ces chats parce que c'est l'emblème de la Montmartre de la Belle Époque, du Montmartre de la Belle Époque, fin de siècle. Et je voudrais quand même m'arrêter sur cette affiche du chat noir dont on parle depuis le début et qui représente un chat noir, effectivement, qui nous regarde. Il semble sourire, ce chat noir. Il a quand même quelque chose de très particulier.
Il est ironique. Oui,
il est ironique. Il évoque pour moi l'estampe japonaise, mais il a une espèce d'auréole derrière la tête, comme si on l'avait sanctifié, ce chat noir. Et dans cette auréole qui est rouge, ajouré, un peu comme un vitrail, on dirait. Il est écrit « Montjoie, Montmartre ». Et elle date de 1896. Donc là, c'est vraiment toute une époque, tout un. Et alors, elle est très souvent attribuée à Toulouse-Lautrec.
Oui.
Donc voilà.
Ils étaient potes. Hein.
Oui, ils étaient potes. Mais enfin bon. Alors, elle est quand même faite, cette affiche du Chat Noir, pour un cabaret, parce qu'évidemment, c'est le règne du cabaret à cette époque-là. Et le cabaret qui avait été ouvert par Rodolphe Salis, et où on lisait du Verlaine mis en musique par Debussy, où il y avait un théâtre de lumière et d'ombre chinoise. Enfin, il y avait toute une vie qui existait autour de ces cabarets. Et ce qui est amusant, c'est que ce Chat Noir, qui était donc vraiment représentatif, emblématique de la bohème montmartroise, quand Picasso arrivait en France, puis repartit après la mort de son ami Casagemas vers 1904, il a fait lui-même une affiche pour le cabaret barcelonais El Quatre Gats, les quatre chats, en référence au Chat Noir de Montmartre. Donc c'est amusant de voir qu'à travers cette image, cette affiche, il y a une internationalisation du Chat Noir. Et donc ça n'est pas resté que à Montmartre.
Et alors justement, Leïla Charbouaï, quand vous avez commencé à travailler sur l'œuvre de Théophile Alexandre Steinlein, on commence par quoi? Parce que moi, j'ai envie de dire, comme Mélina, on parle du Chat Noir et on le décline. Mais là, on sent que c'est tellement protéiforme qu'il faut bien trouver un fil conducteur. Comment vous avez commencé?
Alors, pour être franche, moi, je suis arrivée à Steinlein par les chats.
Voilà, parce que vous aimez les chats, vous en avez
et
combien
puis,
chez
alors,
vous
c'est, alors, j'en ai deux, dont un noir, qui est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un Steinlein vivant chez moi. Donc voilà. Mais c'est surtout qu'on a au musée d'Orsay, en fait, le fonds d'atelier légué par la fille de l'artiste Colette,
oui.
Renée Germaine dite Colette, et du coup, on a des milliers d'œuvres, en fait, qui sont donc dans les collections publiques, et dans ces feuilles, il y a des milliers de chats. Bon, c'est peut-être exagéré de dire des milliers, mais il y en a énormément. Donc, en fait, j'avais fait un accrochage à Orsay de dessins de chats, ouais. Avec beaucoup, beaucoup de dessins de Steinlein. Parce qu'en fait, ils sont magnifiques. Et c'est, en fait, un thème très important dans l'art du 19e siècle. Ce n'est pas anecdotique, en fait. Non. C'est vraiment un thème politique. C'est par le chat, c'est un peu... Les artistes revendiquent vraiment la liberté. C'est l'inverse. Ils l'opposent souvent au chien, qui est un peu l'emblème de la servitude, de la servilité, de l'Ancien Régime. Et c'est aussi l'emblème de l'ironie constante à l'œuvre chez Steinlein, qui subvertit beaucoup aussi les genres, qui dialogue beaucoup avec les maîtres du passé et du présent, et notamment qui dialogue avec Manet, évidemment, avec le Chat Noir de l'Olympia. Vous devez voir dans l'exposition.
On en reparlera pour la fin de l'exposition.
C'est ça. Parce que,
et alors, vous découvrez la peinture.
Oui, alors la peinture.
Moi, j'étais sidérée.
Ouais.
C'est-à-dire que l'artiste, ne séparait pas au fait les techniques. Vous avez vu que ces thèmes circulent vraiment.
Ouais.
On aurait pu mettre plus de sculptures d'ailleurs, parce qu'il a aussi.
Qu'il a beaucoup de chats sculptés, qui sont d'ailleurs
plus d'affiches, parce que oui. Elles sont immenses.
C'est-à-dire que c'est pas une exposition sur les chats.
Hein. Non, pas du tout. Mais
c'est une exposition vraiment sur cette vie à Montmartre, sur la vie du 19e siècle, sur cette vie, je dirais, de Zola. Effectivement, on est en 1880. Et en 1898, c'est l'œuvre, hein, le 14e roman des Rougon-Macquart. Et puis, alors, il y a une espèce de permanence, c'est qu'il va vivre toujours rue Colinco, il va être au 58, puis au 73, puis au 21. Donc, il ne bouge pas de la rue Colincourt.
Oui, c'est vrai. Alors après, il y a toute une dimension dans l'exposition intéressante parce que c'est le peuple au sens large.
Oui.
Alors il y a les femmes. Bon, évidemment, oui. Il faut quand même qu'on parle des femmes parce que il y a les femmes un peu la condition féminine. Alors oui, beaucoup plus les femmes des rues, les femmes travailleuses, les blanchisseuses, la porteuse de pain. Il y a cette scène du baiser parce qu'il y a aussi toute la galanterie. Mais c'est plus un regard sur le rapport entre les sexes que l'amour ou que le comptage fleurette de Fragonard, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose là aussi de social, je trouve,
de rugueux, même
de dramatique, de tragique. Par exemple, le baiser, ce fameux tableau qui est dans la petite alcôve tout au fond à gauche là, on a l'impression qu'ils sont devant une fournaise, quoi, devant une forge peut-être. Est-ce qu'ils sont sortis de l'usine ou de vous voyez, on a l'impression de quelque chose. Et la manière dont cet homme étreint la femme, mais il l'empoigne, enfin elle ne peut plus bouger, de toute façon elle est contrainte, peut-être, je ne sais pas, mais c'est étonnant de voir ça, c'est que il n'y a pas la tendresse, il n'y a pas le sentiment amoureux, tout est un peu brutal quand même, enfin moi ça m'a frappé ça, et même pour ces scènes-là.
Oui, alors c'est baisers, donc il y a deux baisers dans l'exposition. Baisers. Donc un du petit palais de Genève qui est un peu plus urbain, c'est nocturne, mais dans la ville. Et on sent que c'est un peu sous un temps de pluie, parce que ça, il a vraiment créé cet effet de lumière un peu mouillé qui se reflète sur les pavés. Puis il y a un baiser des collections du musée d'Orsay qui est un peu, on ne sait pas trop où ça se passe, si c'est à la campagne ou si, comme vous le dites, c'est une lecture très intéressante.
Oui.
Une
forme, on a l'impression qu'il
y a une lumière effectivement un peu orangée. Et donc ces deux œuvres sont vraiment, c'est un topos de l'époque. Enfin, évidemment un thème atemporel, mais je veux dire, à cette époque, il y a aussi Munch qui fait des débaisés un peu angoissants. Enfin, on a
très proche
de la mort, l'amour mort. Et alors, Stenlein a eu des liens avec la Norvège. Il y a été, il a été invité là-bas. Pendant 4 mois, il a travaillé là-bas. Donc, je ne sais pas s'il a rencontré Munch. Hein. Mais puis, évidemment, Picasso aussi. Donc, c'est un thème vraiment à l'époque traité de manière un peu mélodramatique, tragique.
Et puis il y a aussi toute cette dimension des femmes seules. Il y a une pierreuse vue de profil. Picasso aussi en 1904 à Barcelone a peint dans sa période bleue deux pierreuses de dos, donc des prostituées. Hein. Et là, cette pierreuse de Stenlein, on dirait un homme. Elle a un visage d'homme, ça m'a frappée, mais je suis restée devant en disant mais c'est incroyable d'avoir capté ce visage très masculin, et il y a cette solitude de la femme aussi, qu'elle soit au travail. Un tiers de femmes ouvrières quand même hein, à l'époque, ces femmes qui travaillent, qui s'échinent au travail, il y a un tableau de la vie de famille où il y a un père, une mère, tous les deux torse nus et leur enfant. C'est le seul, vraiment, donc ce côté rapport charnel qui crée la famille, en fait. Cette femme torse nu, cet homme torse nu, cet enfant qui nous regarde tous les trois comme pour une prise de photo, enfin. Et pas vraiment de relation entre eux, pas vraiment de lien, de tendresse, ou même une relation humaine, quoi. C'est quelque chose d'assez statique, d'assez
figé.
Alors,
vous parlez des femmes, Mélina. Il y a aussi le cri des opprimés, de la libératrice, qui date de 1903, et qui reprend un peu la liberté de Delacroix. Hein. On a cette république de presque toussaint dehors. Et c'est très étonnant sur le plan de la facture. Moi, j'avais l'impression déjà de voir, vous savez, ces grandes toiles présentant Lénine devant le peuple. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme de cet art socialiste un peu, où il y a des évocations à la fois de foule, de liberté, d'élan. Et on retrouve, enfin, c'est mon point de vue, on retrouve ça un peu dans dans l'art pré-soviétique, enfin, ou du début des soviets, non ?
Oui.
Ça fait partie de l'engagement aussi de Stenlein.
Oui, je vais juste peut-être, pardon, mais est-ce que je peux juste rebondir sur la pierreuse,
Je rebondis sur la pierreuse,
qui était cette prostituée, qui est sur les chantiers. C'est aussi, on peut parler, enfin, ça après, on parlera de ça, mais c'était juste pour vous dire aussi, vous avez vu le témoignage aussi qu'il a fait de la prison Saint-Lazare, où étaient emprisonnées les prostituées qui n'étaient pas à jour d'un point de vue carte. Et donc ça, c'est un regard effectivement très original quand même. Enfin, si on compare, par exemple, à Toulouse-Lautrec, dont vous parliez tout à l'heure, quand il représente les prostituées, il n'y a pas ce côté un peu festif ou c'est vraiment le portrait de cette femme. Il est on ne devinerait même pas son métier. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun
assez fantine et dentée. Hein.
Voilà, exactement.
Et Picasso aussi est allé pour ses femmes de la période bleue. Il était aussi à la prison de Saint-Lazare. Il s'était introduit en se faisant passer pour un soignant. Et donc, c'est vraiment un lieu qui était quand même une source d'inspiration pour ces artistes qui s'approchaient de la misère, de la condition féminine, à proprement parler.
Mais la femme, effectivement, il l'allégorise aussi, il reprend les codes, il reprend effectivement Delacroix. Il y a aussi l'autre Delacroix qui est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, la Grèce sur les ruines de Missolonghi aussi, qui a également cette posture de libératrice. Et il reprend ces grands classiques romantiques. D'ailleurs, il s'inspirait beaucoup de Delacroix aussi dans sa pratique du dessin. Et pour créer des œuvres assez, effectivement, enfin, un message très clair, qui dialogue d'ailleurs avec des affiches qu'il fait au même moment, parce qu'elles ont un côté, le message est vraiment immédiat. Elle libère le peuple. Hein, ouais, ouais. Voilà, elle leur montre la vérité, reprend aussi l'allégorie traditionnelle.
Alors, avec au fond un agneau, comme si on était dans quelque chose de presque christique. Hein. C'est très étonnant. Enfin, c'est un tableau qui est quand même d'assez grande dimension. Il fait 114 sur 146. Et j'avais l'impression de voir quelque chose de presque soviétique. Alors, on a parlé des chars, on a parlé des femmes, mais très important, il y a les nus. Oui. Il peint beaucoup de nus, oui. Il dessine beaucoup de nus. Il est très, c'est un des thèmes importants de son œuvre. Oui.
Oui, le nu, c'est bon.
C'est le grand classique.
Voilà,
oui. Et surtout à l'époque. Oui. Mais
je dirais que c'est peut-être là qu'on a. Enfin, moi, c'est peut-être là que j'ai le mieux découvert sa qualité de dessinateur, oui. Dans le nu.
Oui.
Y en a un où c'est une femme nue assise sur le bord du lit, sur un lit avec un drap blanc. C'est une fusain écrée, c'est sur un papier un peu crème. Il y a un dessin tout à fait extraordinaire.
Elle est un peu désabusée.
Oui, qui capte parfaitement. Il ne cherche pas du tout à idéaliser la personnage.
Non.
Elle est nue, la tête dans la main, le coude sur les genoux, pensive, dans sa chambre. Elle ne regarde pas le peintre, elle regarde dans le vide, elle regarde, elle est prise, elle est abîmée dans ses pensées, elle a une mèche un peu rebelle sur le front. C'est vraiment une femme au naturel,
d'érotique. Hein.
Non, il y a quelque chose de très. Là, pour le coup, il y a un regard assez tendre, justement, sur cette femme. Et je trouve qu'il y a une justesse du dessin, de l'expression, qui est assez remarquable. Là, j'étais assez stupéfaite. De même que, d'ailleurs, vous avez choisi comme affiche. Oui. Non pas un chat,
c'est une femme chat quand même.
Mais
tu voyais ses yeux.
Voilà, mais la femme sans nom. La femme sans nom qui est aussi une femme de la rue, qui regarde en monumental par rapport à la perspective de cette rue, un visage monumental.
Elle est
glaçante, enfin.
Alors, elle est terrible. Alors dans le métro.
Oui.
Alors on ne voit que ça dans les couloirs du métro parce que vraiment elle ressort sur tous les
murs. Elle a ce manteau bleu et cette chevelure rousse peignée avec ses yeux. Pervers,
oui.
Qui sont ceux d'un chat et la rue derrière elle il peut tout arriver. Elle est vraiment statuaire, elle est incroyable cette femme.
On trouvait que ça résumait bien en fait l'œuvre de Stanley. Bon, déjà ça interpelle le visiteur.
Ah oui.
Et puis il a ce côté un peu cinématographique dans son pré-cinématographique, oui. Dans ses cadrages souvent. Il y a beaucoup de personnages qui viennent vers nous.
Oui.
Il y a des effets un peu de travelling ou de. Oui. Et donc c'est toujours très dynamique. Et on trouvait aussi qu'il y avait ce côté baudelairien,
oui,
qui allie
C'est un peu Anna Karénine sur le quai de la gare.
Ah, alors on peut le voir comme ça, c'est plus romantique. Mais il avait des liens avec tous ces auteurs russes.
Oui. Oui.
Vous avez vu derrière un portrait de Gorky dans l'exposition.
Oui.
Ouais, la côté slave quand même.
Et les couleurs aussi de
couleurs incroyables.
Qui sont des couleurs qu'il utilise en peinture, mais aussi beaucoup dans ses pastels. Justement,
il y a des pastels
orangé,
magnifiques.
Ce bleu.
Ah oui.
Bon, cette ambiguïté aussi. On ne sait pas est-ce une prostituée. Elle aussi, on pourrait.
C'est quand même la femme sans nom. Donc,
elle
pas Madame
fardée,
quelque chose.
Elle a les cheveux roux, ce qui souvent était le résultat d'une teinture.
Oui.
Elle fixe le spectateur souvent masculin. Donc
elle le fixe, mais sans le voir. C'est-à-dire que c'est un.
Comme les chats.
Oui, mais c'est ça.
Qui fixe.
C'est pour
voir,
ça que ça nous dérange autant. C'est-à-dire
c'est
que cette femme qui a des yeux immenses, d'ailleurs qui a un très beau visage. Hein.
Oui.
Mais
c'est
elle
très
résume
beau
visage. Un peu cette esthétique de Stanley entre naturalisme, réalisme et symbolisme.
Oui,
il y a un peu les deux pôles, fait, chez lui.
Et avec la bouche en plein centre de la toile.
Ah oui, c'est
la
étonnant.
Femme fatale, mais version un peu réaliste. Quoi.
Oui, et puis insaisissable.
Ah oui, parce qu'elle n'est pas marrante. Hein.
Non, mais elle peut.
On n'a pas envie de la faire rigoler.
Alors, elle n'est peut-être pas marrante, mais elle est quand même. Je pense qu'elle peut exercer une très grande séduction et surtout une fascination.
C'est une femme qui nous parle.
Non, mais je pense que c'est une femme qui est fascinante.
Oui, oui. Ah ben, elle est fascinante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la rater dans le
un
métro.
Un peu comme Milady dans Sherlock Holmes, vous voyez, quelque chose de fascinant.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Bon.
Bah, c'est peut-être un peu aussi une allégorie de la beauté moderne, la beauté bizarre.
Oui. Et puis la beauté
que
libre.
Cherchent les artistes de
et la
cette
beauté libre, la beauté libre, c'est-à-dire qui répond pas forcément à un critère de beauté, mais qui a cette espèce de caractère dans le visage qu'il a parfaitement saisi. Et donc, je pense que vous avez fait un très bon choix avec cette affiche.
Femme sans nom, on ne connaît pas précisément quel était son modèle.
Non.
Incroyable.
Pas précisément. Mais vous voyez aussi, dans cette œuvre aussi, elle a ce côté circulation des techniques. Enfin, c'est-à-dire, c'est une peinture, mais le geste enfin du pinceau, a un côté très graphique. C'est assez étonnant aussi. C'est une œuvre mystérieuse.
Oui, mystérieuse. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on est quand même à l'époque des impressionnistes. Il n'est pas du tout... Enfin, il est imperméable, en fait, à ce mouvement qui a quand même fait une espèce de raz-de-marée, enfin, puis de révolution à cette époque-là. Et lui, il reste totalement libre par rapport à ça. Il n'est pas du tout impressionné, c'est le cas de le dire. Enfin, il n'est pas du tout... Il est perméable.
Il est rue Caulaincourt, voilà. Donc il n'est pas en plein air. Il n'est pas du tout dans l'école du plein air.
Il est lui-même, oui.
C'est extraordinaire de voir ça.
Et ce qui est extraordinaire, c'est la multiplication. La multiplication des techniques, c'est-à-dire qu'il il dessine, il peint, il est graveur, il fait une affiche, et on sent que on ne sait pas si c'est le sujet qui pose la technique ou si c'est la technique qui va lui apporter le sujet, et on sent que moi je me suis posé la question devant un certain nombre d'œuvres en disant mais pourquoi il a fait comme ça. Et en fait, c'est peut-être la technique qui le guide.
Alors ça
d'où le côté protéiforme.
Oui, et puis ça pose une autre question, c'est que c'est un autodidacte.
Oui.
Donc c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il voulait quand il voulait, qui a cherché à apprendre ce qui l'intéressait. Il n'a pas reçu de formation académique. Mmh. Et d'ailleurs, ça lui pose un problème quand même à un moment. Mmh. Parce qu'en 1900, il y a un tournant. Il a envie d'être reconnu, il veut participer aux salons, aux expositions des beaux-arts. Il se met à faire des sujets de peinture d'histoire, qui n'étaient pas du tout son thème au départ. Il veut entrer dans la sphère officielle. Ça veut dire qu'il n'y est pas, alors qu'il est connu de tous. C'est cruel aussi, ça. Mais c'est comme ça, en fait.
Oui, il a souffert un peu de cette hiérarchie des techniques qui est restée.
Oui, parce que peintre d'histoire, c'était Moreau.
Non, mais illustrateur, c'est pas reconnu comme tel. Oui, c'est quelque chose de secondaire.
Le dessin qui reste un peu inférieur. Pourtant, il vit vraiment à l'époque de l'essor des arts graphiques, qui connaissent vraiment leur âge d'or. Mais là, il est un peu comme Daumier et Gustave Doré en cela. C'est-à-dire que c'est un immense dessinateur, mais qui a envie quand même d'être aussi un très grand peintre.
Alors, est-ce qu'il ne s'est pas enfermé géographiquement? C'est-à-dire qu'on est au musée Montmartre, hein. On est sur la butte de Montmartre, encore une fois, il habite dans la même rue. Est-ce qu'il ne s'est pas enfermé, là?
C'est pour ça que dans l'exposition, on commence par l'évidence, donc par Montmartre, mais on quitte vite Montmartre dans le parcours. Pour moi, effectivement, l'éloigner un peu aussi de cette affiche du chat noir, où effectivement, il a été un peu enfermé.
Et
aussi,
du côté anarchiste, Montmartre 3 aussi.
Bon, après, c'est un enfermement qui est aussi assez libérateur.
Enfin, bien sûr.
Mais c'est un artiste... Là, on n'avait pas un espace non plus immense, mais il y a encore d'autres aspects. Il était très intéressé notamment par la botanique. Et il a peint énormément de paysages et de natures mortes. Enfin, il a plein de facettes, en fait.
Alors, il y a quand même la dernière partie qui, moi, m'a absolument stupéfaite. Justement, je ne m'attendais pas à cette chute, qui finalement, pour lui, peut être un tremplin. C'est-à-dire Masséida. Masséida. Alors, Masséida, c'est une femme africaine bambara, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est devenue son modèle et sa maîtresse, apparemment.
Alors là, le doute subsiste.
Le doute subsiste, voilà. En tout cas, à cette époque, souvent, quand on dit modèle, on dit aussi maîtresse. Et co-héritière, quand même.
Oui.
Voilà, malgré tout. Et alors là, il y a un portrait extraordinaire, d'abord, crayon. En noir et blanc, de Masséida. Cette femme est magnifique.
Ah, d'une beauté.
Et là, près du musée de Vernon. Donc un musée qui a un énorme fond, Stendhal.
Ah oui,
musée
de Vernon.
Ah oui.
C'était près de sa maison, en fait.
Oui.
Ouais. Et là, ce portrait complètement... Alors là, moi, je suis restée longtemps de contempler cet art du dessin. Il retranscrit la personnalité, le grain de la peau. Enfin, c'est extraordinaire.
Hein, il y a un côté androgyne. C'est-à-dire que Masséida, quand on voit ce portrait... On ne sait pas si c'est un homme, une femme. Enfin, il faut s'approcher pour se rendre compte que c'est un personnage féminin qui était son modèle. Mais à première vue, il y a un côté... il y a un côté androgyne qui n'est pas vraiment sexué.
Mais moi, je tenais énormément à ce portrait parce que je trouve que c'est vraiment un contrepoint aux tableaux qui sont présentés dans cette salle. Des tableaux qui sont plus attendus où là, justement, ils jouent beaucoup avec les codes de l'érotisme exotique.
Masséida sur un divan versus Olympia de Manet.
Avec un petit peu de Gauguin
en noir, avec un peu de Gauguin dans les
natures mortes.
Et un chat. toujours, on retrouve le chat quand même, mais bon. En tout cas, ça, c'est assez extraordinaire de voir cette inspiration nouvelle. Moi, je me suis demandé si pour lui, c'était justement pas, en réponse à votre réflexion de tout à l'heure, Christophe, le moyen pour lui de s'évader de tout ça, de cette pauvreté sociale, de cette misère, de cette condition de la femme un peu désespérante. Hop, tout à coup, cette femme africaine qui respire la santé, la vie, la beauté. Oui. Oh, et alors, il y a un dernier tableau d'elle, où elle est avec un fichu coloré, un costume, elle est sublime. Et là, alors, on est parti, on voyage.
Merci infiniment toutes les deux pour cette exposition Stanen qu'il faut aller voir avant le 11 février. Je signale aussi qu'il y aura à partir du 15 mars une exposition Auguste Herbin, le maître oublié. Ça, il ne faudra pas rater ça parce que c'est un grand, grand peintre que j'aime moi particulièrement. Merci infiniment à toutes les deux. Leïla Jarboua, vous êtes la commissaire de l'exposition. Merci Mélina de Courcy de nous emmener dans ces beaux lieux. Nous nous retrouvons demain mardi où nous parlerons de Gagarine, la légende made in URSS, le très beau livre de Grégoire Péan chez Robert Laffont. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.